Je n'avais jamais imaginé être médecin du raid. C'est presque arrivé, entre guillemets, par hasard. En ce qui me concerne, ce n'était pas une vocation. Je n'ai pas décidé un jour que j'allais devenir médecin du raid. Comme je l'ai dit initialement, on me l'a proposé, mais je ne l'avais pas envisagé. J'y ai réfléchi à ce moment-là. Je ne suis pas certain qu'avoir une vocation initiale de médecin, je veux être médecin du raid, soit forcément une qualité qu'on va rechercher chez un médecin qu'on va sélectionner. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais les opérateurs viennent ici avec des convictions et des fonctions qui sont adaptées parce qu'ils sont policiers. Toi, tu ne dois pas devenir médecin du raid parce que tu veux faire le travail de la police.
Bienvenue dans cette mini-série exclusive du podcast Défense Zone, consacrée au raid, l'unité d'élite de la police nationale. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous avec le chef du groupe médical d'intervention du raid. Nous souhaitons une bonne écoute.
Donc nous sommes à Bièvre, au siège du RAID, avec le médecin Manu. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, je suis médecin urgentiste, je suis médecin-chef chef du groupe médical d'intervention du RAID. J'ai 50 ans et j'ai un parcours classique de médecin urgentiste avec mes années de formation en fac, mes spécialisations en médecine d'urgence, en médecine de catastrophe.
D'accord. Vous êtes complètement civil ou vous êtes aussi policier ?
Bon, les policiers sont des civils.
Oui, d'accord. Je veux dire, vous êtes fonctionnaire de police ou...
Non,
vous êtes,
je ne suis pas fonctionnaire de police. Je suis contractuel de la police, donc je suis contractuel du ministère de l'Intérieur et je suis à temps partiel pour la police. J'ai une autre activité puisqu'on nous demande de garder une activité dans un service de médecine d'urgence ou d'urgence pour-hospitalière de manière à garder, entre guillemets, l'expérience et la main. Même si on n'arrive pas tout jeune forcément dans le service, mais l'intérêt c'est d'avoir deux activités. Une activité au sein de la police, où on va être amené à gérer des crises médicales ou des problèmes médicaux, mais beaucoup moins souvent que ce qu'on voit à l'hôpital ou sur le terrain.
D'accord. C'est quoi les interventions les plus fréquentes que vous avez
au sein de la police ?
Ouais.
Ah, les interventions les plus fréquentes, c'est les accidents d'entraînement ou de service. Puisque là, régulièrement, on a une activité qui est, on va dire, de traumatologie ou de médecine du sport. Puisque on est, clairement, pour au sein du groupe médical, on est 6 médecins. Ici à Bièvre, l'échelon central, et on sait, enfin, je pense que tu sais que le RAID, c'est aussi 10 antennes métropolitaines et 3 antennes ultramarines. Toutes les antennes sont médicalisées. Et donc, au sein des antennes, on a aussi un groupe de médecins qui médicalisent. La différence, c'est que au sein de l'échelon central, les médecins sont des contractuels, donc à temps partiel de la fonction publique, alors que dans les antennes, les médecins travaillent pour nous sous le biais d'une convention, par le biais d'une convention, soit avec un SAMU, soit avec un SDIS. Et dans cette convention, on leur demande d'être astreinte H24 pour nous. S'il y a une intervention qui se déclenche pour leur aide, ils viennent. Ils font l'intervention pour médicaliser la colonne. Nous, on est présents en permanence au service. Donc, on fait les entraînements de sport, les entraînements tactiques, toutes les séances, on suit le programme de l'alerte. Donc, si les opérateurs se blessent pendant les entraînements, on intervient au titre du médecin le plus proche et le premier recours. On n'est pas... Dans la police, il y a d'autres services qui s'occupent de l'aptitude et de la prévention. Donc ça, c'est un autre service médical. Mais nous, étant sur place, on ne pourrait pas ne pas prendre en charge un fonctionnaire qui se blesse pendant une séance de sport alors qu'on est juste à côté. Et clairement, il y a plus d'accidents, et fort heureusement, il y a plus d'accidents en entraînement qu'en intervention. Donc la traumatologie simple ou la médecine du sport, c'est plus de 60% de notre activité ici.
D'accord.
En termes médicaux.
Ouais. Et après, médicaliser une colonne, ça veut dire être présent et être prêt à répondre à une urgence
Alors, en fait, depuis 1995, le RAID est médicalisé. Donc le RAID, c'est 85. 95, c'est la médicalisation. Initialement, le groupe médical d'intervention a été créé par deux médecins. Et ces deux médecins ont inventé la médicalisation des colonnes d'intervention, puisque jusque-là, ça ne se faisait pas. Le but initial, qui depuis a quand même un petit peu changé, mais le but initial, c'était de prendre en charge un opérateur blessé au cours d'une intervention de police. Maintenant, le profil des interventions aussi a changé. Le profil de la menace qu'on affronte a changé, ce qui fait qu'on est amené à intervenir non seulement pour les opérateurs qui peuvent être blessés sur l'intervention, mais aussi au bénéfice. Alors quand je dis les opérateurs, ça peut être les opérateurs, mais ça peut être aussi soit l'hostile parce qu'il a été blessé au cours de l'intervention, soit une victime collatérale, un otage ou une personne qui passait par là, entre guillemets, ou qui a été prise dans un tir de l'hostile. Mais c'est aussi maintenant, dans le cadre des attaques terroristes, s'il y a une tuerie de masse, on est le premier médecin engagé, on est au plus près de la menace, donc on va forcément mettre en place le dispositif de médicalisation. Donc ça a complètement changé. La doctrine initiale, c'était s'occuper du fonctionnaire blessé dans la colonne. Donc le médecin était en queue de colonne, le dernier, entre guillemets, opérateur de la colonne d'intervention. Colonne d'intervention, on va dire que c'est une vingtaine de personnes en moyenne. C'était, il était à côté de l'officier ou du dernier de la colonne. Maintenant, non seulement il joue ce rôle-là, mais avant, il organise souvent au PC du RAID le dispositif de médicalisation grâce à la doctrine qui a été mise en place depuis. Donc une doctrine médicale d'intervention, comme le RAID a une doctrine d'intervention au niveau tactique.
Oui, effectivement, parce que dans le cadre de tuerie de masse, là, il y a beaucoup plus de boulot, je suppose, même si vous n'êtes pas forcément les premiers. Vous êtes peut-être les premiers sur zone, mais pas forcément les seuls. Comment ça se passe après pour la coordination avec le SAMU ou les pompiers sur place, par exemple ?
Bah justement, ça fait partie du travail qu'on a mené là depuis de nombreuses années, qui est la mise en place d'une doctrine médicale d'intervention qui permettent d'assurer la coordination inter-service entre le RAID et les forces de police. Alors, force de police, ça peut être primo-intervenant, hein, le niveau 1. Déjà, depuis 2015, on a le schéma national d'intervention avec le niveau 1, les primo-intervenants, le niveau 2 et le niveau 3, dont fait partie la force d'intervention spécialisée et le RAID. Eux doivent s'articuler avec les primo-intervenants des secours, donc les SDIS ou la BSPP si on est sur Paris ou le BMPM sur Marseille. Et puis les SAMU. Donc le but de cette doctrine, c'était de permettre en fait, à tous ces gens-là de dialoguer ensemble et de mettre en place un dispositif de secours qui permette d'accéder rapidement aux victimes d'une tuerie de masse ou du moins de les extraire rapidement vers les secours pour se prendre en charge. Puisque clairement, on sait que dans le cas en tout cas de traumatisme pénétrant, de plaie hémorragique, alors traumatisme pénétrant c'est quand on reçoit un projectile, donc on va parler de tir par balle, de plaie par balle. Pour les traumatismes pénétrants, ça peut être les coups de couteau, donc un assaillant peut avoir un couteau et intervenir, enfin faire plusieurs victimes dans une sorte de périple meurtrier en enchaînant les victimes derrière. Là on sait que ce qui est important c'est le temps. Donc avant on parlait de la golden hour, mais maintenant c'est même 10 platinum minutes. C'est les 10 minutes de platine. C'est-à-dire que si on n'intervient pas dans les 10 premières minutes pour faire cesser l'hémorragie, on va perdre la victime et après, on ne pourra pas, malheureusement, on va décéder de ses lésions. Donc le but, c'est d'arriver au plus proche des victimes le plus rapidement possible et de permettre leur extraction vers des secours et surtout le transfert en milieu hospitalier puisque plus vite ils seront au bloc opératoire, plus vite on pourra les sauver. Donc notre rôle et notre travail, ça a été notamment à partir de MERA, à partir de 2012, de mettre en place cette doctrine. Donc on a réfléchi, tous les collègues ensemble, plus tous ceux qui travaillent autour, hein, que ce soit les acteurs de la sécurité civile ou des SAMU, comment faire ? Et on a mis en place une doctrine. Cette doctrine, donc, elle repose sur trois grands piliers. Les trois grands piliers, c'est le zonage, la coordination interservice et le triage, ou le repérage des victimes. Donc le zonage, on définit trois zones sur une intervention, la zone d'exclusion police, la zone contrôlée dans laquelle les secours peuvent s'autoriser à intervenir, et la zone de soutien où là on est plus en arrière, on est sécurisé, c'est souvent là où on met les postes de commandement, le poste médical avancé. Voilà. Et donc dans la zone d'exclusion police ne peuvent rentrer que les policiers ou que la force d'intervention. Le dispositif est réplicable à l'identique pour la gendarmerie, donc on aura une zone d'exclusion gendarmerie, ça dépend si on a un COP. Maintenant, on parle même de COPG, donc commandant des opérations de police et de gendarmerie. Ça peut être l'un ou l'autre. Tout dépend si on est en zone police ou en zone gendarmerie. Donc, dans le cadre d'une intervention pour tuerie de masse, le zonage va faire que les secours conventionnels ne peuvent pas accéder à la zone d'exclusion police. Donc, le rôle des médecins, notamment des médecins de la force d'intervention, c'est de permettre l'extraction rapide des victimes après un triage et puis la mise en place des gestes de sauvetage immédiats. Si on arrive avec une colonne, qu'on sécurise une première zone et qu'on découvre des victimes qui sont en choc hémorragique avec des plaies pénétrantes, je ne sais pas, je vais arriver, il y a une hémorragie artérielle sur un membre, je vais poser un garrot tourniquet, je vais demander une extraction rapide vers les secours spécialisés. Donc on met en place ce dispositif dès qu'on intervient. Et le dispositif qu'on a inventé, cette doctrine qu'on a inventée, du moins qu'on a développée plutôt, elle est réplicable aussi bien d'une petite crise, et on les met en place aussi bien pour un forcené simple retranché que pour une prise d'otage multiple ou pour une tuerie de masse. Simplement, la dimension, le dimensionnement des services qui vont intervenir va changer. Mais sur un retranché, entre guillemets, quelqu'un qui se manifeste à la fenêtre avec une arme, bon, la police, les primo-intervenants arrivent, effectivement, il y a une arme qui a été vue, le RAID va être sollicité pour l'intervention, surtout s'il est retranché en milieu clos. Quand nous, on va arriver, on va définir un périmètre qui sera la zone d'exclusion police. Il va être très restreint, ce sera peut-être juste l'appartement, ou en fonction des fenêtres et des façades, ça sera un petit périmètre. Mais dans cette zone-là, les pompiers et le SAMU ne peuvent pas intervenir. Donc nous, on va faire le relais avec les secours dans cette zone-là.
D'accord. Et chaque opérateur est un minimum formé à la pose de garrot, stopper une hémorragie
Alors ça, c'est un autre pan de notre activité. Tu me demandais tout à l'heure notre activité ici. Effectivement, on suit le programme de l'alerte, donc on fait les entraînements comme eux. On fait des séances de sport pour se maintenir à un certain niveau physique parce qu'on doit être équipé comme eux avec des équipements de protection individuelle qui pèsent lourd. Et on fait également de la formation. Donc la formation à destination des opérateurs. Donc on a une formation interne qui commence dès leur formation initiale. Quand ils sont recrutés, à l'issue des sélections, ils ont 6 mois environ, si je ne me trompe pas, de formation initiale. Pendant la formation initiale, ils ont un module secourisme tactique qui correspond à peu près à ce que font les militaires avec le sauvetage au combat. Le sauvetage au combat est à niveau 1, 2 et 3, le niveau 3 étant réservé aux médecins et aux infirmiers. Nous, on a un secourisme tactique de niveau 1 à 3 aussi, le niveau 3 étant le niveau qui acquiert en fait les... Il n'y a pas d'infirmiers au RAID, mais en tout cas les médecins qui passent le brevet de médecin tactique d'intervention. Donc on fait cette formation, en formation initiale avec un module pour les opérateurs. Ensuite, ils ont un recyclage annuel, voire... Actuellement, on a changé le module, donc ce qui fait que chaque mois et chaque semaine, on forme une partie des opérateurs en recyclage. Initialement, on faisait des sessions où on prenait plus de monde. Donc ça arrivait, on va dire, 4 fois par an, il y avait 4 groupes, on faisait par trimestre, on prenait un groupe. Là, maintenant, chaque semaine, dans le programme d'alerte, est intégrée une formation à destination de 5 ou 6 opérateurs, donc des plus petits groupes, mais qu'on passe toutes les semaines. Et qui s'entraînent sur des mannequins haute fidélité ou basse fidélité, avec des mises en situation.
D'accord. Et chaque opérateur part au minima avec un garrot, une sorte de...
Alors, chaque opérateur est doté d'une trousse d'urgence qui est différente ici au RAID des trousses classiques d'urgence parce qu'on l'a un peu, on va dire, upgradé lié à leur mission. Il y a 2 types de trousses. Il y a la trousse ou la poche qu'ils ont sur eux en permanence pour chaque intervention ici en métropole, sachant qu'ils sont forcément médicalisés par un médecin. Donc, cette trousse est un peu plus réduite, mais dedans, il y a du matériel de damage control avec... garrot tourniquet, pansement compressif, pansement hémostatique, pansement thoracique, éventuellement une couverture de survie pour la protection thermique. Et globalement, c'est à peu près ce qu'ils ont, eux, en individuel, tous les opérateurs. En revanche, ils ont aussi des trousses d'un deuxième modèle, d'un deuxième niveau, mais qui, là, nécessitent d'avoir une formation donc de deuxième niveau type en bas risque. Pour les opérateurs qui vont partir soit dans des missions un peu isolées, sans médecin, soit à l'étranger, donc sans médecin aussi, et notamment dans des zones qui peuvent être un peu dangereuses, comme pour la protection des ambassades, on en a parlé récemment, mais l'Afghanistan, ils avaient tous cette formation en bas risque. Là, ils sont capables d'exsuffler un pneumothorax, de poser une perfusion, mais dans des situations bien définies et dans un cadre d'emploi qui fait que, un, ils sont à l'étranger, ils n'ont pas de recours possible à un médecin, et c'est sur contact et prescription médicale du médecin d'alerte ici H24 qui va leur donner « Ok, tu peux faire ça, tu peux faire ça ». Mais ils ont eu la formation avant, sur mannequin haute fidélité, ce qui permet qu'ils peuvent reproduire les gestes. D'accord. Et là, ils ont une trousse qui est bien plus développée. Ils ont accès à un certain nombre de dispositifs médicaux dont ils n'ont pas l'habitude de servir, clairement, et qu'ils n'ont pas besoin ici en France, puisqu'ils ont tout le temps un médecin avec eux.
D'accord. Dans les ambassades, par exemple, il n'y a pas de médecin du RAID, c'est le médecin de l'ambassade qui est là pour...
Alors, dans les ambassades, soit il y a un médecin référent de l'ambassade, mais qui n'est pas forcément sur place. Hein. D'ailleurs, on dit que les médecins de l'ambassade ne sont pas toujours dans l'ambassade. Ça peut être des médecins qui travaillent en fait pour l'ambassade, mais qui sont sollicités sur conseil. C'est-à-dire qu'il y a un personnel de l'ambassade qui est souffrant. On va faire appel au médecin de l'ambassade mais il n'est pas dans l'ambassade. Les ambassades sont rarement, ont rarement leur propre médecin à l'intérieur de l'ambassade. Et donc, eux, ils ont du matériel médical, ils ont des dispositifs spécifiques, on fait de la télémédecine aussi. On a mis en place, avec le système du médecin d'alerte H24, plus par les réseaux de communication. Par exemple, on leur apprend à faire un électrocardiogramme. Si quelqu'un est souffrant à l'ambassade dans une zone à risque, on va étudier quand même, évaluer le bénéfice-risque entre « il lui fait l'électro sur place, je l'analyse à distance et je prends une décision médicale » ou on le transfère 2 heures de route ou 1 heure de route vers un hôpital où la sécurité n'est pas assurée.
Vous l'avez dit au début, ce sont les exercices qui sont le plus sujets aux blessures. Et est-ce que ici vous faites aussi un suivi de... Est-ce que vous jouez un peu le rôle de médecin traitant
même si... Alors, on est de fait le médecin traitant quasiment de toute l'unité, puisque c'est quand même difficile aujourd'hui d'avoir recours à un médecin. On voit bien clairement que souvent, il y a une pénurie médicale, les médecins ne sont pas dispo, tu vas à un rendez-vous, c'est dans 3 jours ou dans 5 jours, et qu'ici, ils ont l'habitude d'avoir un médecin en permanence. Donc bon, c'est quand même beaucoup plus simple de s'adresser au médecin. Donc effectivement, on est de fait le médecin traitant de toute l'unité. D'accord. Mais comme on est plusieurs, on a chacun nos victimes ou nos patients.
D'accord. Vous, à titre personnel, comment vous êtes venu à travailler avec le RAID ?
Alors, moi, tu me demandais ma formation, donc j'ai fait, à l'issue de ma formation médicale universitaire, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait la BSPP. Ça me plaisait bien, j'y suis resté 17 ans, donc c'est que ça me plaisait quand même beaucoup. Et à l'époque, pareil, j'étais contractuel, hein, puisque je n'étais pas médecin militaire du tout, j'ai juste fait mon service, à l'issue, on m'a proposé un contrat, puis je suis resté. Et j'avais donc le droit, j'étais pareil, à temps partiel, j'avais le droit de travailler à l'extérieur. Donc j'avais d'autres activités, je travaillais au SAMU, j'ai fait beaucoup de pré-hospitaliers, puis je travaillais pour une boîte d'assistance, et donc je faisais du rapatriement sanitaire. Voilà, bon, bah, forcément, la médecine d'urgence, c'est un petit monde, on connaît à peu près tout le monde. Un de mes collègues travaillait déjà ici au RAID, moi je savais vaguement qu'il avait une activité pour la police, mais il était très discret, il n'en parlait pas, je ne sais pas exactement dans quel service il travaillait. Et puis un jour, il me dit, bah, tu sais... Il manque un médecin de notre groupe. Moi, je pense que tu as le profil et tu devrais postuler. Voilà. Donc, je lui demande de m'en parler un petit peu plus. Et puis, effectivement, c'était une époque. Moi, je suis entré en 98 à la brigade. On était en 2013 quand je suis rentré ici au RAID. Donc, ça faisait à l'époque 15 ans. Et je pensais avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais faire en préhospitalier. Puis là, il me décrit des interventions, il me décrit un autre milieu que je ne connais pas, mais qui quand même ressemble un peu. Il y a un aspect, la BSPP, c'est une unité militaire, il y a un esprit de cohésion, de frère d'armes, entre guillemets. Mais il m'évoque un peu la même chose au RAID, avec ce qui change beaucoup quand tu fais du préhospitalier, tu vois tout le temps les mêmes maladies. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste, il va avoir un panel de maladies très très large. Un médecin urgentiste à l'hôpital, il a un certain panel de maladies, mais beaucoup plus réduit. Et un médecin urgentiste, comme moi, j'étais essentiellement préhospitalier, donc c'est-à-dire dans les camions de SAMU ou dans les camions de pompiers, il a un panel d'intervention encore plus réduit. C'est-à-dire que on va faire du défenestré, du brûlé, des plaies par arme à feu, des plaies par arme blanche, on va faire des incendies, des accidents de la voie publique, et puis toute la partie médicale sera toujours à peu près la même chose, des douleurs thoraciques, des détresses respiratoires, des enfants, les dyspnées chez les enfants, les brûlures chez les enfants. Voilà. C'est assez réduit. Ce qui change, c'est le contexte. On n'intervient jamais au même endroit. Donc c'est pour ça que tu peux tenir 15 ans dans un SMUR en te disant un coup c'est 2 nuits dans un jardin, une fois c'est sur un toit, une fois c'est... Le contexte change à chaque fois, donc ça fait que le métier n'est pas si répétitif. Mais au bout de 15 ans, il me fait un peu de tous les contextes. Et là, il me parlait de contextes que moi, je ne connaissais absolument pas. Intervenir avec une colonne, voilà. Bon, donc je me dis pourquoi pas. En plus, je m'entendais très bien avec ce médecin. Donc je postule, et puis là, il y a un processus de recrutement, donc avec une voie d'admission. En gros, tu postules avec titres et travaux, tes diplômes, tout ça, un entretien, des tests de sélection, et à l'issue du processus de recrutement, voilà.
C'est quoi les tests de sélection pour un médecin ?
Alors, les tests de sélection, c'est récent, parce que, en l'occurrence, moi j'en parle, mais je n'ai pas subi les tests de sélection qu'on a mis en place après mon arrivée, puisque, initialement, En 95, c'est deux médecins qui créent le groupe et qui recrutent quelques-uns des médecins qui sont volontaires pour le faire. Ensuite, il y a eu un système qui s'est mis en place de cooptation, où on ciblait telle ou telle personne en disant « il a le profil, il correspond à nos critères, on va le prendre, et puis de toute façon, comme il y a une période d'essai, si on se trompe, on en prendra un autre. » Moi, je crois que je fais partie des premiers pour lesquels il y a eu une ouverture en fait, officielle à tout public, donc tout le monde pouvait postuler, un concours sur titres et travaux, plus un entretien avec un jury, mais pas d'épreuve physique. Et voilà comment j'ai été recruté. Et ensuite, moi, j'ai été recruté, je suis devenu, j'étais adjoint du médecin-chef de l'époque, dès que j'ai été recruté. Et on a mis en place un certain nombre de choses avec lui, la doctrine, les tests de sélection pour les médecins, le brevet pour les médecins tactiques. Donc les tests de sélection, maintenant, ça consiste, on va en faire le mois prochain, puisqu'on constitue un vivier de médecins qui sont susceptibles d'intégrer l'unité quand un poste va se libérer. Et ça consiste essentiellement à mixer des épreuves sportives avec des épreuves médicales. Et pour ça, pour détecter en fait la capacité de s'adapter au stress. Comment reproduire le stress d'une intervention ? Impossible, on ne va pas tirer sur les médecins qui viennent postuler, sinon il ne va pas rester beaucoup. Donc on leur fait faire du sport, ou on le met dans des situations physiques un peu stressantes. Je ne sais pas, on va les faire monter sur une antenne radio à 30 ou 40 mètres de hauteur. Et une fois qu'ils sont là-haut, on leur pose des questions médicales. Ou on leur fait faire un geste technique dans une situation où ils n'ont pas l'habitude. Alors les médecins qui postulent sont pour la plupart des urgentistes ou des anesthésistes-réanimateurs. Donc les qualités principales quand même de ces médecins-là, c'est d'être capable de gérer leur stress, d'avoir un stress adapté. On ne dit pas qu'ils n'ont pas peur, mais ils adaptent leur réaction au stress. Ça, c'est bien. Et ils sont capables de prendre des décisions aussi rapidement. C'est un peu deux qualités qu'on veut voir. Et ces qualités-là, on n'a trouvé que ces systèmes-là pour l'instant pour essayer de les dépister. On essaie aussi de dépister des phobies. La hauteur, clairement, si c'est une phobie, si on n'est pas capable de travailler sur un toit en étant vaché, longé, on ne peut pas intégrer l'unité.
Ouais. Oui, donc en fait, c'est un peu le même parcours, presque, à quelques étapes un peu similaires qu'un opérateur qui aimerait rentrer au RAID.
Il faut garder ça à des proportions physiques réalistes, c'est-à-dire que tous les opérateurs du RAID sont quasiment des sportifs de haut niveau. Ce n'est pas le cas des médecins qui intègrent le service. Tous les médecins qui intègrent le service sont des sportifs réguliers. Donc il y a une condition physique minimale à avoir, ne serait-ce que pour porter l'équipement. Quand je suis équipé, je porte un gilet lourd qui fait 11 ou 11,5 kg, un casque lourd qui fait 3,5 kg. Donc j'augmente déjà mon poids quasiment de 15 kg. Je dois porter sur le dos mon sac d'inter qui fait 12 kg, fait 27 kg. Et il faut être capable de les porter, je ne sais pas, une intervention qu'on a faite, je suis monté au 19e étage à pied. 19 étages avec 30 kg de plus que ton poids corporel. Voilà, il faut une certaine forme, mais on n'est pas du tout... À chaque fois qu'on va... En fait, je ne sais plus comment on dit, mais... En gros, à chaque fois qu'on va à la salle de sport, on comprend où sont nos limites. C'est-à-dire que si j'y vais seul avec des copains ou j'y vais seul avec les mecs du groupe, on est bien, on est en forme. Maintenant, si je tourne avec des opérateurs, on est rapidement rappelé à la réalité. Donc, les tests de sélection, c'est la même chose. Ils passent des tests de sélection qui sont au niveau 10, quand nous, on passe des tests de sélection qui sont au niveau 3 ou 4. Voilà. À peine. On ne joue pas du tout dans le même registre. Mais on ne nous demande pas la même chose. Nous, on est à l'arrière de la colonne. Ouais. On est formé au maniement des armes. On est formé à la mise en sécurité des armes, notamment. C'est-à-dire que si un opérateur est blessé, il doit être capable de prendre en charge ses armes, de les mettre en sécurité, de manière à ce que... Imaginons qu'ils soient inconscients ou qu'ils convulsent et que tout d'un coup, dans un mouvement, ils touchent son Glock. C'est une simple action. Le coup pourrait partir parce que les armes sont chambrées. Voilà. Je prends en charge un blessé, je mets ses armes en sécurité.
Vous êtes sous anonymat ?
On est sous anonymat, oui. On est soumis au même anonymat que tous les fonctionnaires.
D'accord. Comment vous faites pour vous former quand vous êtes le responsable des médecins ? Est-ce que vous continuez à creuser certaines...
Alors, en tant que médecin, on a déjà une obligation de formation médicale continue. C'est-à-dire que tous les ans, je dois me former. Mais pour ce qui est de la médecine. Ensuite, pour la médecine tactique, la médecine d'intervention, je pourrais te dire qu'on l'invente un peu tous les jours et on invente nos formations. Du moins, on essaie d'innover. Il y a des choses qui ont été mises en place avec des universités. On a des travaux de recherche, on fait des publications. Mais on fait aussi beaucoup d'exercices. Et donc, toute la mise en place des exercices ici, c'est le fruit d'une réflexion commune du groupe qui permet d'amener... en fait, à mettre des situations que le médecin ne retrouve pas ailleurs. Le but, c'est qu'on soit capable de s'adapter. On travaille avec peu de matériel, dans des conditions difficiles, parce qu'on est équipé en lourd, on pèse lourd, on n'a pas beaucoup de mobilité, on a souvent peu de place ou peu d'éclairage. Donc il faut qu'on se reproduise ces situations-là. Donc le CQB, où on s'entraîne régulièrement, on peut mettre en place un mannequin. Quand le groupe d'inter s'entraîne, suivant le thème, on peut proposer qu'il y ait un blessé, soit un blessé parmi l'otage, parmi les otages, soit un blessé parmi la colonne. Le médecin lui-même peut être isolé à un endroit et ne pas être capable d'extraire correctement la victime. Donc, en fait, on compte beaucoup aussi sur le service de formation ici pour nous aider dans la mise en place de schémas tactiques. Parce que la médecine qu'on va devoir pratiquer, aucun problème, on sait le faire. Ce qu'on fait dans le camion de SAMU ou ce qu'on fait à l'hôpital, on peut le reproduire. La difficulté, ça va être de le faire sans mettre personne en danger, les autres opérateurs, sans nous mettre nous-mêmes en danger, et sans nuire non plus à la bonne poursuite de la mission.
Est-ce que vous faites comme les militaires en opération? Est-ce que vous êtes amené à soigner aussi le méchant?
On soigne tout le monde. De toute façon, principe de la médecine, on fait pas de... Moi, je ne ferai pas de choix. L'opérateur est blessé, je vais le soigner. L'hostile est blessé, je vais le soigner, ce qui est arrivé de nombreuses fois. Et s'il y a des otages, je vais les soigner aussi. Y a pas de distinction. Tu soignes tout le monde. Quand tu es médecin, tu soignes tout le monde. Je ne suis pas juge.
Est-ce que vous faites des échanges avec le GIGN ou d'autres groupes d'intervention?
Alors, on a des contacts. On a des contacts avec le GI, avec le médecin-chef du GIGN. Donc là, il vient de changer récemment. Il est parti, il est devenu médecin-chef du BMPM, mais je continue à avoir des contacts avec lui. Le nouveau, son remplaçant, j'ai des contacts aussi. On échange sur nos process et notamment sur la doctrine, puisque on a une doctrine commune, de manière à ce qu'on puisse intervenir sur deux sites en même temps, enfin sur le même site à deux unités en même temps, pardon, et reproduire à peu près pour les services de secours les mêmes schémas d'engagement. C'est-à-dire que si d'un côté on triait les victimes rouge c'est pas grave et de l'autre côté rouge c'est très grave, derrière les secours pourraient pas comprendre. Donc on a quand même harmonisé nos pratiques et ça c'est le fruit d'une collaboration. On n'a aucune difficulté au niveau médical à collaborer avec le GIGN et même avec la BRI-BAC-PP qui est médicalisée aussi depuis 2011. À l'issue d'ailleurs d'un travail avec le RAID, la mise en place de la médicalisation qui est assurée par la BSPP. On a des contacts réguliers avec ces médecins-là et on travaille tous en bonne entente.
Et est-ce que vous vous inspirez du côté militaire, je pense par exemple aux forces spéciales ou même dans la...
On a des contacts avec les forces spéciales, on échange beaucoup. Là récemment, j'ai échangé avec eux sur la mise en place d'une fiche médicale du blessé, mais spécifique pour l'opérateur, puisqu'on n'avait pas encore réfléchi à cet aspect-là. Nous, on prenait en charge les opérateurs comme les autres victimes, et puis on leur mettait en place des fiches qui les suivaient s'ils étaient hospitalisés. Et en fait, on a réfléchi à un nouveau modèle qui est le fruit d'une collaboration avec les forces spéciales. On s'entraîne parfois avec eux sur des opérations communes, enfin sur des entraînements communs. Les opérateurs vont par exemple s'entraîner à Pau. Et quand ils vont s'entraîner à Pau, il y a un médecin qui va s'entraîner avec eux. Donc on échange régulièrement. On a des contraintes qui sont un petit peu différentes avec les militaires. C'est que les militaires sont souvent... Les médecins militaires d'unité, quand ils sont engagés avec leurs unités, sont souvent projetés à des distances plus éloignées des hôpitaux. Donc on est obligé d'aménager un peu. Nous, souvent, quand on intervient, c'est en milieu urbain. L'hôpital, il est maximum à 15 minutes, voire 30 minutes. Allez, une heure, c'est grand maximum. Or, quand tu regardes la doctrine militaire, les rôles 1, rôle 2, rôle 3, souvent déjà, les délais d'évacuation, c'est celui-là, il faut l'évacuer dans 1h30 ou 3h. Nous, 3h, la crise, soit elle est réglée, soit ils sont déjà tous hospitalisés depuis 1h30. parce que les délais sont différents. On n'a pas des problèmes de médévac à faire avec 3 heures d'hélicoptère ou de roll 2 à assurer avec une unité médico-chirurgicale où il faudrait l'opérer sur place, le stabiliser avant de le rapatrier dans son pays. Donc on a quand même des techniques qui sont différentes. Mais notamment sur l'emport, sur le matériel, on a des visions communes. Nous, le but, c'est aussi d'avoir du matériel efficace mais léger et résistant, ce qui n'est pas toujours compatible.
Les attentats de 2015, les tueries de masse, les attentats en plein centre de Paris, ça a fait évoluer la doctrine aussi ?
Oui, ça a fait évoluer la doctrine. Déjà, ça a mis en avant l'obligation commune de partager une seule vision de cette organisation médicale. Ça a permis à ce que tout le monde ait envie de travailler ensemble. Et puis, ça a changé sur 2015, c'est la mise en œuvre, par exemple, des antennes RAID. C'est qu'avant, il y avait 7 GIPN. Tout d'un coup, après 2015, on passe à 10 antennes RAID. C'est là qu'aussi, on médicalise toutes les antennes RAID. Les 7 GIPN étaient déjà médicalisés, donc ça a été juste une transformation à statut. 3 nouvelles antennes. De mémoire, c'est Montpellier, Toulouse et Nancy. Elles n'étaient pas médicalisées, donc prise de contact avec des SAMU locaux, des SDIS, pour trouver une solution et médicaliser. Donc ça a changé. Il faut former tous ces médecins. Tous les médecins c'est là aussi qu'on a mis en place le brevet de médecin tactique d'intervention. Tous les médecins des antennes sont des médecins qui sont issus soit du SDIS, donc pompiers, soit des SAMU. Ils n'ont pas forcément la culture d'une intervention de police, et notamment d'une tuerie de masse. Donc notre doctrine d'intervention, ils ne la connaissent pas forcément au départ quand on les recrute. Donc on a un processus de formation, ils sont formés dans leur antenne pendant 6 mois à 1 an, et à l'issue de cette formation, ils viennent passer ici un brevet de médecin tactique. Donc là, la semaine prochaine, il y a 12 médecins qui viennent et qui vont passer ce brevet sur 2 jours. Ça sera une validation de toute la formation qui a été faite en antenne, plus le fait qu'ici, à l'échelon central, on dispose de ressources supplémentaires. On peut les mettre dans des situations qui ne peuvent pas forcément reproduire en antenne chaque semaine. Si on veut faire un exercice NRBC, on a plus de facilité ici qu'en antenne, même s'ils sont équipés. Mais la mise en œuvre d'un exercice, c'est plus compliqué.
Il y a des spécificités, justement, au NRBC, quand on est médecin au RAID ?
Oui, il y a un de mes collègues qui a un Master 2 NRBC, qui donc, lui, est spécialiste et référent dans cette discipline, et qui a ce rôle de veille à la fois technologique, bibliographique, pour nous informer sur les nouveautés et sur les projets qu'on doit développer.
D'accord. Et je suppose que c'est le médecin qui joue le rôle un peu de pharmacien aussi, au niveau du matos, c'est lui qui...
Au niveau médical, on est autonome, c'est-à-dire que notre matériel médical, on a des lignes budgétaires, donc moi en tant que chef du groupe, je suis responsable du budget du groupe. Donc en fonction des lignes budgétaires qui me sont attribuées, je dois adapter le matériel que je vais pouvoir commander à la fois pour les champs centrales mais pour les antennes, et puis faire en sorte qu'on puisse toujours répondre en fait à l'intervention. Pour ce qui est des spécialités pharmaceutiques, elles sont commandées, sous la responsabilité d'un pharmacien qui travaille avec nous, mais qui lui ne fait pas partie du RAID. Donc c'est externalisé en fait.
D'accord. Et est-ce que vous intervenez aussi dans le cadre de formation pour d'autres éléments de la police nationale ?
Ouais, on est sollicité notamment par la DCI, la Direction de la Coopération Internationale. On fait des formations pour eux, par exemple, pour tous les gens qui vont envoyer à l'étranger. Donc tous les ASI qui partent dans les ambassades suivent un stage qui s'appelle pays à risque ou pays crisogène, dans lequel il y a une partie médicale. Donc ils sont formés avec une formation, entre guillemets, au secourisme tactique ou... et au risque aussi, suivant les pays dans lesquels ils vont être projetés. On fait aussi à leur demande, et ça c'est après sous validation notamment du patron, mais aussi de la possibilité qu'on a, puisqu'à 6 médecins, on assure 2 lignes d'alerte par jour, n'est pas toujours disponible pour partir une semaine former un groupe à l'étranger qui solliciterait. Mais on fait des formations, on est déjà allé dans différents pays pour faire des formations, notamment aux tueries de masse, puisqu'on a une certaine expérience. Je parlais tout à l'heure de tuerie de masse, mais il y a très peu de groupes qui ont été confrontés à une vraie tuerie de masse. Ouais. En Europe, je parle, ou en France, l'attaque type Bataclan, elle est exceptionnelle. Mmh. Une tuerie de masse par arme à feu, donc du traumatisme pénétrant, comme c'est arrivé en novembre 2015 avec multisite, pour finir sur un théâtre où il y a une multitude de victimes, c'est exceptionnel. Nice, c'est encore différent. Nice, c'est un camion qui fait de multiples victimes, mais finalement, la résolution de la crise est assez rapide à la fin. Alors que sur le Bataclan, il y a un temps incompressible pour arriver à neutraliser la menace.
C'est quoi votre regard sur la popularité qu'a eu soudainement le secourisme tactique? On voit de plus en plus de formations qui se créent. Nous, au sein de DZ, on a fait aussi une formation en ligne avec un expert. C'est quoi votre regard sur tout ça?
Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien que ça soit vulgarisé et popularisé, entre guillemets. C'est très bien si les gens qui dispensent les formations ont les compétences pour le faire, et c'est ça qui compte le plus. Or, comme je te le disais, il y a peu de gens qui ont été confrontés à telle situation. Donc il y a toujours des gens qui vont s'inventer des vies et dire « je sais comment il faut faire ». Il y a beaucoup de formations qui sont issues aussi de formations de l'étranger. Donc si on compare la France, on a chez les militaires sauvetage au combat, secourisme tactique au raid. Dans le milieu civil, il y a le secourisme conventionnel, pas tactique. Aux États-Unis, ils ont le T3C, Tactical Combat Casualty Care, donc ça qui est à destination des militaires, et le TE2C, Tactical Emergency Civilian Care. Là, ils ont adapté une doctrine militaire à la population civile, et ils reprennent tous les principes. Le consensus de Hartford, comment prendre en charge une hémorragie, Voilà, c'est des gens qui sont formés à dispenser des formations qui vont répliquer des principes militaires adaptés au milieu civil. C'est très bien. Donc en France, si on veut faire du secourisme tactique, il faut aussi savoir à quelle population on s'adresse. Le secourisme tactique, ça, à mon avis, ça s'adresse à des populations qui vont intervenir dans le cadre de traumatismes pénétrants ou d'affrontements, on va dire, avec des armes à feu, des armes blanches, éventuellement des explosions. Ce n'est pas forcément adapté à toutes les populations civiles. Si tu prends des médecins du SAMU ou des infirmiers en préhospitalier, ils peuvent être confrontés à ça. Tous les jours, quand j'étais chez les pompiers, en régule, on avait un appel pour une arme à feu ou pour une arme blanche. Donc c'est bien qu'ils aient ces réflexes. Si on prend des gardes armés maintenant, ou des personnels, des vigiles de supermarchés, très bien qu'ils aient cette formation-là, parce que ça peut arriver. Et que donc, plutôt que d'être démunis, si au mur on trouve une trauma box, qu'on ouvre la trauma box et que dedans il y a 5 garrots, que le vigile il s'est posé un garrot, bah, il peut sauver des vies. C'est très bien. Mais maintenant, faire ça pour monsieur tout le monde dans la rue, ça ne me paraît pas nécessaire. Ou du moins, il ne faut pas l'appeler secourisme tactique. C'est du secourisme conventionnel avec application des gestes de damage control. On fait cesser une hémorragie, les positions d'attente. Voilà, il y a une multitude de choses qu'on peut mettre en place. Mais...
Et en étant au RAID ici, en voyant par vos propres yeux ou en entendant les rapports aussi des missions, j'imagine que des fois, les opérateurs tombent sur des trucs assez incroyables, peut-être des armureries complètes, quand il y a des gens qui sont retranchés dans leur appartement, etc.
On peut faire des découvertes stupéfiantes. Bon, souvent, ils n'ont pas besoin de nous le raconter, parce qu'on demande souvent à rentrer quand même dans la pièce quand l'intervention est terminée. Ouais. Bien sûr, la colonne a pénétré. Toi, ton nid de blessé, il était juste sur le palier. Déjà, on t'appelle pour examiner l'hostile, entre guillemets, ou le forcené, le retranché, quand il a été... menotté et qu'il peut avoir été tasé, donc tu veux l'examiner. Moi, tu jettes un coup d'œil circulaire quand même et tu fais aussi, on s'aperçoit que la législation sur les armes en France n'est pas forcément adaptée. Quoi.
On voit aussi que.
Les armes de chasse, on peut les garder ad vitam aeternam. C'est aussi dangereux que des armes de guerre quand suivant les munitions qu'on va mettre à l'intérieur d'un calibre 12.
Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait. Se lancer dans la médecine, enfin qui aimerait rejoindre pourquoi pas le RAID ou un autre type de groupe d'intervention et se lancer dans ce qui est déjà médecin, et quel conseil vous donneriez?
C'est difficile de lui donner un conseil parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose que tu peux envisager dans le sens où je n'avais jamais imaginé être médecin du RAID. C'est presque arrivé entre guillemets par hasard. En ce qui me concerne, c'était pas une vocation, j'ai pas décidé un jour que j'allais devenir médecin du RAID. Comme je te l'ai dit initialement, on me l'a proposé, mais je n'avais pas envisagé, j'y ai réfléchi à ce moment-là. Je ne suis pas certain qu'avoir une vocation initiale de médecin, je veux être médecin du RAID, soit forcément une qualité qu'on va rechercher chez un médecin qu'on va sélectionner. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais...
Et pour le côté, on ne vient pas ici pour le prestige ou pour le...
Il y a le côté prestigieux. Ou... Ouais, mais voilà, plus aussi pour la mentalité. C'est que les opérateurs viennent ici avec des convictions et des fonctions qui sont adaptées parce qu'ils sont policiers. Toi, tu ne dois pas devenir médecin du RAID parce que tu veux faire le travail de la police. Donc en fait, il faut d'abord avoir envie d'être médecin. Alors bien sûr, s'il est déjà médecin, il faut avoir une des spécialités qui concorde, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il soit urgentiste ou anesthésiste réanimateur. Il faut qu'il ait une expérience conséquente, s'il a envie de pouvoir être recruté, donc on va dire de 5 à 10 ans. Mais quand je dis conséquente, c'est-à-dire que de les 5 à 10 ans, c'est du travail qui était posté, des gardes, du malade, où il a une activité importante. Et quelques spécialités ou quelques compétences supplémentaires ne peuvent pas nuire... et un profil sportif.
D'accord. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire des candidatures spontanées ou vous êtes
quelques candidatures spontanées, régulières, allez, une par mois ou une tous les deux mois. Sachant que là, je dis, on va bientôt faire des tests de sélection pour créer un vivier. Et parmi ce vivier, on va sélectionner peut-être 3 ou 4 médecins qui, eux, donc, seraient susceptibles d'intégrer le service au fur et à mesure des départs ou des arrivées.
D'accord. Ok. Bah, merci pour cet échange et toutes ces informations.
Bah, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à tout de suite dans la suite de cette mini-série consacrée au RAID.